Lézard foncé.
Hé, hey, oh l'humain, tu veux bien arrêter de bouger? J'attends mon repas, moi.
Le coin des enfants, France Inter.
Un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Sur l'appli Radio France.
Il est midi sur France Inter. Les informations vous sont présentées par Claire Checaglini. Bonjour Claire.
Bonjour, bonjour à tous. Plus le compteur de bison futé grimpe vitesse grand V, plus les automobilistes ralentissent, voire s'arrêtent. Peu avant midi, il y avait déjà plus d'un millier de kilomètres de bouchons cumulés. La journée la plus chargée de l'Hexagone sur les routes a été classée noire dans le sens des départs, orange dans celui des retours, sauf autour de la Méditerranée où là, le drapeau rouge a été hissé. Les gares sont aussi noires de monde aujourd'hui. La SNCF attend 1 100 000 voyageurs ce week-end. En ce week-end de traditionnel chassé-croisés juilletistes haussiens. Sans libération d'otages, nous continuerons le combat sans répit, a prévenu ce matin le chef d'état-major de l'armée israélienne. Eyal Zamir rendait ce matin visite à ses troupes dans la bande de Gaza. 49 otages restent détenus par le Hamas ou le djihad islamique dans l'enclave palestinienne. 27 ont été déclarés morts par les militaires de l'État hébreu. Trois régions russes visées par des drones ukrainiens la nuit dernière, Rostov, Penza et Samara, bilan 3 morts. 112 engins ont été interceptés par Moscou. Hier, Washington a tenté de faire une nouvelle fois pression sur le Kremlin, alors que depuis des mois, les États-Unis tentent sans succès de mettre sérieusement à la table des négociations les Russes avec les Ukrainiens. Donald Trump a annoncé avoir fait déployer 2 sous-marins nucléaires américains dans des zones dites appropriées, plus proches donc de la Russie, a précisé dans la soirée le locataire de la Maison Blanche, mesure qui faisait suite à des propos de Dmitri Medvedev, ancien président russe, déclaration qui n'ont pas été dévoilées par Donald Trump. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se félicite d'une saisie historique de stupéfiants en Polynésie française. Près de 1700 kilos de cocaïne ont été interceptés, ainsi que plus de 230 kilos de méthamphétamine. En février dernier, le président de la collectivité française du Pacifique alertait sur la dangerosité de cette drogue. Il estimait à 30 000 le nombre de consommateurs sur ce territoire, qui compte 300 000 habitants. Une électricité propre dès 2027. La Guyane vise 100% d'énergie renouvelable d'ici 2 ans. Objectif réalisable grâce à une méga centrale électrique d'EDF au biocarburant qui sera mise en service l'an prochain. Le département ultramarin vise également l'autonomie énergétique en 2030. Programme surchargé pour Maxime Grousset aujourd'hui aux Mondiaux de natation à Singapour. Le Néo-Calédonien plongera pour 2 finales. D'abord en solo sur le 100 mètres papillon. Il fait figure de favori après sa médaille d'or au 50 mètres papillon lundi. À peine plus d'une heure plus tard, le nageur de 26 ans se remettra à l'eau pour le 4x100 mètres nage libre mixte. Saint-Palais, Saint-Georges-d'Urtière et la Madeleine en Savoie. 3 cols à franchir aujourd'hui pour les coureuses du Tour de France femmes cet après-midi. Les Alpes dans toute leur majestuosité pour cette 8e épreuve qui s'annonce décisive. Avant le final demain, départ de Chambéry à 14h pour le peloton emmené par Kim Lecourt, la Mauricienne. L'écart entre la détentrice du maillot jaune et sa première poursuivante est tout à fait rattrapable. La Française Pauline Ferrand-Prévot n'a que 26 secondes de retard.
France Inter présente.
Savez-vous que la grande exploratrice Ella Mayer a fait du ski en Asie centrale à 5000 mètres d'altitude? Allez, c'est parti! Tous!
Les Odyssées.
Le podcast d'histoire et d'aventure pour les 8-12 ans.
Laure Grand-Besançon.
Harriet Tubman, la résistante qui a sauvé 300 esclaves et l'étonnante voyageuse Ella Mayer. Bonnes vacances à toutes et à tous. Et surtout, gros bisous!
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter. Un podcast par jour, des acquis pour toujours.
France Inter, il est midi 4 en 6 dates clés avec Thomas Snegaroff.
5ème République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure, longtemps gage de stabilité. La 5ème République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés?
Thomas Snegaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la 5ème République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 1, 1958, naissance d'une république gaulienne.
Avec une rapidité inouïe, l'unité et la force de la France se sont dégradées. Nos intérêts essentiels se sont trouvés menacés. Notre existence en tant que nation indépendante et libre a été mise en cause. Cet affaiblissement est dû à bien des causes, mais il faut mettre au premier rang la défaillance de nos règles institutionnelles. Ces règles étaient en elles-mêmes inadaptées. Michel Debré, discours devant le Conseil d'État le 27 août 1958. Bonjour Anne-Charlène Bézina.
Bonjour Thomas.
C'est avec toi qu'on va dialoguer, converser sur cette constitution que tu connais par cœur. T'en as même fait un livre où tu la commentes. Cette constitution qui nous protège, c'est chez IXO. Tu es donc constitutionnaliste, maîtresse de conférence à l'université de Rouen. Je reviens sur les mots de Michel Debré que je viens de lire. Il dit « ces règles en elles-mêmes étaient inadaptées ». Il parle là des règles de la 4e République et on ne peut pas discuter de la 5e sans raconter ce qu'était la 4e République. Quelles étaient ces règles inadaptées auxquelles il fait allusion ?
Alors, il y en a plusieurs. En réalité, c'est vraiment cette constitution de 1958, une constitution de réaction. Précisément, la 4e, mais on pourrait même remonter à la 3e République, étaient des régimes au départ parlementaires, mais qui ont dérivé en des régimes dits d'assemblée, c'est-à-dire en fait des régimes où l'assemblée peut absolument tout. Elle peut décider des lois, elle peut décider même des actes des administrations, étant donné que son pouvoir est absolument sans limite. Et je pense que l'essentiel de ce qui a causé la réaction 58, précisément, c'est cet abus de parlementarisme. Et ce que Michel Debré estime comme des règles inadaptées, c'est toutes les règles de ce parlementarisme-là. Une loi qui peut tout faire, un parlement qui maîtrise son planning, son ordre du jour, son agenda, ses discussions. Et c'est essentiellement autour de ces règles-là que Michel Debré va réfléchir avec le général de Gaulle à une nouvelle architecture.
C'est là que j'ai besoin de notes de bas de page. Quand tu dis régime parlementaire, ça veut dire quoi ?
Un régime parlementaire, alors précisément, ça c'est un enjeu tout à fait important dans cette date de 58 où on va commencer à réfléchir à la Constitution. Michel Debré nous dit, en réalité, on est en quête du régime parlementaire en France depuis presque 1791. Et nous, ce qu'on va faire, c'est pas tant un régime parlementaire renouvelé, mais c'est un vrai régime parlementaire. Parce que le régime parlementaire, normalement, c'est un équilibre assez grand entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est-à-dire un régime où gouvernement et Assemblée nationale collaborent parce que le gouvernement émane de l'Assemblée et les deux travaillent ensemble sur les lois, sur les budgets et c'est un équilibre en réalité qui se trouve. L'archétype, c'est évidemment celui auquel on pense tout de suite, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne avec un parlement très fort et un Premier ministre qui en est issu. C'est un peu le modèle d'ailleurs de Michel Debré, cette Grande-Bretagne. Mais nous, à chaque fois qu'on a fait du régime parlementaire, il a dérivé précisément avec une Assemblée toute puissante. On peut prendre la période de la Terreur avec justement cette convention qui devient une Assemblée qui décide d'absolument tout, voire même d'éliminer ses propres ennemis toute seule. Et puis, on a 3e République, 4e République, ces dérives-là qui sont très grandes.
Ça, c'est intéressant parce qu'on dit toujours que la 4e République, c'était le régime parlementaire et qu'on a voulu faire autre chose après. Toi, tu me dis pas du tout. En 1958, ils veulent faire un vrai régime parlementaire.
La phrase est de Michel Debré dans ce même discours de 1958 et dans tout ce qu'il a dit, d'ailleurs, pour expliquer cette constitution, il a dit, elle apparaît trop exécutive, on nous critique déjà sur cette question-là, mais en réalité, elle veut à nouveau équilibrer les pouvoirs.
Mais on dit aussi que la 5e, elle s'est faite parce que la 4e, c'était l'instabilité gouvernementale. T'en parles pas ?
Je n'en parle pas parce qu'en fait, c'est ça la dérive du régime d'assemblée. C'est-à-dire que quand une assemblée peut tout, quand une assemblée n'a plus aucune limite, eh bien précisément, les gouvernements, elles n'en fait qu'une bouchée. Et c'est un petit peu ça le problème. C'est-à-dire qu'on dit souvent que c'est un régime d'instabilité. Mais c'est un régime d'instabilité qui ne vient même pas du fait que l'assemblée renverse les gouvernements. Elle n'en a plus besoin. Ah. Le gouvernement a tellement peur de son attitude qu'en réalité, il est complètement soumis à ses desiderata. Les alliances changent, les groupuscules font les majorités. Et de ce fait-là, il y a une forme d'absence de clarté dans le régime et dans le fonctionnement politique qui irrite complètement le général de Gaulle qui, en 58, se dit « je vais redonner de la visibilité de ce régime-là au peuple ».
C'est marrant parce que quand tu parles, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent à la situation que la France vit de nos jours. Et puis alors, si on revient vraiment à 58, les événements qui vont faire tomber la 4e, a priori, n'ont rien à voir avec les institutions. La guerre d'Algérie qui s'embourbe. Pourquoi est-ce que Michel Debré, dans l'extrait que je viens de lire, fait un lien entre les deux ?
En fait, c'est Michel Debré, mais c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire que quand René Coty l'appelle en mai, il dit « je fais appel en mai 58 au plus illustre des Français ». Et évidemment, c'est sa qualité de général, au fond, qui est vantée. Mais le général de Gaulle, on le sait, s'il arrive, c'est vraiment pas pour être le président du Conseil de la... Alors, président du Conseil, ça veut dire Premier ministre, en fait, hein, de la 4e République, qui va jouer une partition normale. C'est vraiment quelqu'un qui propose quelque chose de nouveau. Il l'a fait savoir en 1946. Et en fait, sa constitution n'ayant pas été adoptée, il quitte le comité de rédaction de la Constitution de la 4e République. Donc, il a fait ce qu'on appelle la traversée du désert, précisément parce que ses idées n'ont pas été adoptées. S'il revient, on sait qu'on prend tout avec lui, le général et la constitution dite de Bayeux, c'est-à-dire celle qu'il avait déjà dessinée dans son discours de Bayeux de 46. Donc, René Coty est très au fait avec ça. Le général de Gaulle ne ment pas à l'Assemblée nationale quand il vient prendre l'investiture. Il dit, voilà, j'ai changé les règles. Et il a été un petit peu échaudé par le fait qu'on lui dise qu'il était un peu de tendance autoritaire. Donc, il veut le faire dans les formes. Il va réviser l'article relatif à la révision de la Constitution de la 4e République pour
réviser
dire...
Réviser la révision, je comprends rien.
En fait, il va réviser la révision de la Constitution. C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, bon, non seulement je vais réviser la Constitution, mais je vais y aller un petit peu plus que ça. On comprend très vite qu'en fait, il va réviser toute la Constitution et qui va faire table rase, c'est-à-dire qu'il va en reprendre une nouvelle. Mais il le dit à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale fait quelque chose, c'est qu'elle corsette un peu sa liberté. Elle vote les deux lois du 3 juin 58. La première est une loi dite des pleins pouvoirs. Alors ça rappelle un peu Pétain, donc on ne lui donne pas les pleins pouvoirs personnels. On dit au général de Gaulle et son gouvernement pour essayer d'encadrer un peu.
Les pleins pouvoirs pour rédiger une nouvelle Constitution.
Pour mettre en place de nouvelles choses. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez constitutionnellement large quand même, on lui fait confiance. Mais, deuxième loi du 3 juin, on cadre son pouvoir et on lui donne 5 principes dans lesquels la nouvelle Constitution devra survivre. Et on va voir qu'il y a déjà un petit peu toute la nature particulière de cette 5e République. Une autorité judiciaire indépendante, une communauté française justement avec l'Algérie et avec toutes les colonies. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est quand même le moment. On ne peut pas prendre la 5e République sans comprendre la communauté française, c'est-à-dire vraiment cette idée d'organiser un peu la future décolonisation.
C'est intéressant, ça, c'est le deuxième point. Parce qu'on pense à aujourd'hui et on pense quand même au contexte dans lequel est née cette République. C'était une République où il y avait encore les colonies, notamment toutes les colonies africaines.
Précisément.
Et elle a été pensée dans ce contexte-là, intellectuel et culturel et politique.
Complètement, et notamment, c'est vrai que quand on lit la première constitution de 58, on le voit, c'est annoncé dès le préambule.
Oui.
Les communautés françaises, c'est vraiment une manière de vivre ensemble. On essaye de créer un contrat commun qui fonctionne, hein, il faut le dire. Alors, pas très longtemps, mais qui fonctionne, qui séduit, en tout cas, tous nos dominions ou autres éléments qui sont, en tout cas, des attributs d'indépendance qui vont éclore, mais qui ne sont pas encore complètement certains d'eux-mêmes. Et au moment de cette communauté française, c'est donc le deuxième principe, autorité judiciaire indépendante, communauté française, je les cite dans le désordre, un gouvernement responsable devant son assemblée, donc c'est-à-dire qu'on garde la mécanique du régime parlementaire en fait,
oui, c'est-à-dire
les deux
définition précise du parlementarisme.
Ensemble. Exactement, on garde le régime parlementaire et puis le suffrage universel à la source de tous les pouvoirs. Donc on voit bien qu'on veut vraiment encadrer le pouvoir du général de Gaulle. Et puis cinquième élément, et eh bien l'idée qu'il y ait un équilibre de ces pouvoirs. Donc en fait, l'Assemblée nationale fait confiance au général, mais elle essaye de l'encadrer. Et là, le général de Gaulle réussit une épreuve de force, c'est-à-dire qu'il rédige une constitution en moins de 3 mois. C'est la constitution de l'été 58, en fait, celle que nous avons.
Comment elle est rédigée? On le sait, ça?
Alors, dans un procédé très, très novateur par rapport à tout ce qu'on a connu dans notre histoire constitutionnelle, c'est l'une des seules constitutions, alors sauf celles qui ont été octroyées par un roi, qui n'est pas rédigée par une assemblée constituante. Mmh. Le général de Gaulle dit, on va s'embourber, on va perdre beaucoup de temps, on va avoir des tractations des uns face aux autres. Et, en fait... on parle en ce moment souvent des gouvernements techniques. Eh ben, c'est une constitution technique ici, parce que on fait appel à des comités techniques. On fait appel à Michel Debré, qui est conseiller d'État au départ, qui est vraiment choisi par rapport à son habit d'ancien juge administratif, de quelqu'un qui connaît bien le droit. Et le général de Gaulle dit souvent, c'est moi qui ai les idées et c'est lui qui en sera la plume, parce que il sait que il va mettre en œuvre, mettre en forme, en réalité, un petit peu la constitution de Bayeux dont on a déjà parlé. Donc, Debré est là pour son rôle de juriste, et il y a plusieurs comités pour rédiger cette constitution. Il y a le comité des partis, et ça c'est assez dingue, parce qu'en 58, on arrive à mettre tous les partis de l'échiquier politique ensemble, un représentant de chaque qui donne la coloration partisane, le cabinet du général de Gaulle, et Michel Debré et ses rédacteurs.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblée constituante, c'est largement né de la tête du général de Gaulle et de la main de Michel Debré, avec les avis des uns et des autres. Il n'y a pas d'opposition à cette nouvelle République.
Alors c'est vrai que c'est une forme de cristallisation d'un moment d'unité nationale. C'est-à-dire qu'au moment de 58, il y a, on l'a dit, l'essoufflement de la quatrième, une usure de cette valse des gouvernements, de cette toute-puissance de l'Assemblée, une crise algérienne qui fait craindre pour l'unité de la nation. Et donc l'appel au général de Gaulle, c'est le moment de réconciliation, en réalité.
Le déchirement de la nation a été de justesse empêché. C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Nous l'avons fait sans avoir à aucun moment à tenter à aucun droit du peuple et à aucune liberté publique.
Dans cette nouvelle constituante, dans cette nouvelle manière de faire de la Constitution, on sent qu'il y a un projet profondément politique et profondément national au fond. Le président de Gaulle dira plus tard « sans Constitution, pas de République ». C'est-à-dire que pour lui, en fait, il lit les deux. Et dans les mémoires de guerre, il dit « au moment où on m'appelle, moi, j'ai à nouveau un peu le souffle de la guerre ». C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis appelé par l'urgence et que c'est le même général qui revient rédiger sa Constitution. Donc c'est cette atmosphère-là, même si pour les oppositions, je te rassure, il y a quand même ce qu'on appelle les comités consultatifs constitutionnels, le comité consultatif constitutionnel, qui est constitué des anciens parlementaires de la 4e République qui ont un droit de lecture de cette constitution et ils la changent pas mal à la fin de l'été, justement, ils l'amendent, ils la modifient, et le Conseil d'État, justement, c'est le discours que tu citais en préambule, discours de Michel Debré qui vient présenter devant le Conseil d'État, et c'est fou qu'on fasse lire ça au Conseil d'État, parce que le Conseil d'État n'a normalement pas du tout un rôle constituant, mais là, on veut une relecture juridique. Le général de Gaulle a un souci et un seul, c'est que le respect des formes, le juridisme soit vraiment mis en avant.
Est-ce que c'est aussi le souvenir, parce que tu en as dit un mot il y a quelques instants, mais un mot seulement, des pleins pouvoirs de Vichy? Est-ce que c'est l'obsession de ne pas retomber dans quelque chose qui serait de l'ordre des pleins pouvoirs à un homme?
Complètement. Complètement pour l'Assemblée, mais complètement pour le général lui-même. C'est-à-dire que c'est un général qui vient en période de crise, et tout parallèle est tellement difficile pour les Français que vraiment, l'idée de marteler cette idée de la légalité, c'est quelque chose qui est censé rassurer les Français. Et on a le fameux discours du 4 septembre, où le général vient justement dire « on renoue avec la République, on renoue avec les plus belles valeurs qui sont les nôtres ». Il cite d'ailleurs, avant de présenter cette Constitution, toutes les autres républiques qu'il qualifie, la première ensanglantée, la deuxième libérale, et il veut vraiment s'installer dans ce continuum pour rassurer les Français. Et j'ajoute qu'il dit quelque chose, toute ressemblance avec les faits actuels pourrait être tout à fait volontaire. La Constitution donnera le cap, le reste dépendra des hommes.
Et est-ce qu'il y a l'idée à l'époque déjà que cette République sera la dernière? Qu'elle est là pour durer plus que la troisième, qu'on a longtemps qualifiée de la plus longue des Républiques? Est-ce que c'est déjà dans la tête, j'allais dire, des constituants, en l'occurrence du général de Gaulle, de se dire cette République, elle durera pour toujours?
Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment une réflexion sur la durée, mais ce qui rejoint complètement ce propos, c'est cette idée de sortir d'une forme d'échec permanent historique, d'un jour sans fin. Et je pense que précisément le sursaut de la cinquième, peut-être qu'il est temporel, mais il est surtout structurel. C'est-à-dire qu'on se dit, il faut qu'on trouve la constitution qui soit adaptée au paradoxe français aussi. C'est-à-dire qu'il y a la culture du chef, qui a fait nos empires, notre retour à la royauté, les directoires, etc. Et il y a le parlementarisme. C'est-à-dire que le général de Gaulle ne conçoit pas la 5e République sans son Parlement et son gouvernement, et l'autre cycle, il dit qu'il y a deux cycles, toujours, le cycle président-peuple et le cycle Premier ministre-Parlement.
C'est hyper intéressant ce que tu dis là, parce que on sent bien qu'une constitution, c'est pas qu'un texte technique, c'est la rencontre aussi entre un horizon d'attente d'un peuple, de sa culture, de sa civilisation, et une réalisation politique. C'est ce qui se joue en 58, à t'écouter.
C'est ce qui se joue en 58, et c'est pour ça qu'en fait, on a eu besoin du soutien des juristes, mais que c'est aussi une constitution très politique et qui est soutenue par l'ensemble des politiques.
Justement, j'allais te poser la question sur l'ensemble des citoyens. Elle passe par référendum, cette constitution. Comment ça se passe, le référendum? Et puis, rapidement, pour terminer cet épisode, les premières années de cette constitution, est-ce qu'elle fonctionne? Est-ce qu'on se dit très vite, ça marche?
Alors, elle est adoptée par référendum. Là aussi, c'était une condition de la loi du 3 juin. Et c'est un vrai raz-de-marée. Hein. En réalité, c'était la plus belle majorité avec la plus belle participation qu'on a eue dans notre histoire, ce référendum pour adopter la Constitution. Et En fait, très tôt, on va vouloir, c'est un peu le mot d'ordre hein, de cette Constitution de 58, l'efficacité.
Oui.
Et on a les premières élections législatives qui arrivent en novembre 58. On élit le premier président, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat un peu élargis qui l'élisent en décembre, en la personne du général de Gaulle. On fait fonctionner le Conseil constitutionnel et tout ça à partir de janvier. Donc vraiment, on a presque 4-5 mois de mise en fonctionnement. Et oui, on a l'impression que ça fonctionne, parce que en réalité, il y a une assez grande concorde autour de la majorité gaulliste, même si elle n'est pas absolue, en tout cas, elle est assez restreinte. Mais il y a cette idée, en tout cas, que tout le monde est assez d'accord avec le fait de sortir du dogme de la quatrième. Alors, même si, évidemment, je caricature, hein, il y a eu des positions d'opposition, notamment de la gauche, qui a été très, très dure avec cette constitution. La doctrine aussi, elle est un peu perdue, il faut être honnête.
Mais on va sortir totalement et peut-être définitivement du dogme de la quatrième en 1962, lorsque le président devient désormais élu au suffrage universel direct. Ça change tout et ça sera l'objet de notre prochain épisode.
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir. J'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles ces choses-là. Suis-je la seule à penser à ça? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore.
Inter en 6 dates clés. 5e République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la 5e République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés?
Thomas Negaroff.
6 grandes dates, 6 épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la 5e République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 2, 1962, le président monarque.
Je crois que quoi qu'il arrive, la nation doit avoir le moyen de choisir elle-même son président afin que cette investiture directe puisse lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Général de Gaulle, allocution radio-télévisée, le 18 octobre 1962. On poursuit la conversation avec Anne-Charlène Bézina, autrice de cette constitution qui nous protège chez Ixo. Là, pour le coup, c'est un moment majeur et capital. Le passage de l'élection du président de la République au suffrage universel direct, je reprends les mots du général de Gaulle, lui donner la force et l'obligation d'être le guide de la France et le garant de l'État. Pourquoi c'est très 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 important cette date?
Alors en réalité, parmi les analystes, on dit parfois que cette 5e République, elle n'a duré que 4 ans, de 58 en 62, et qu'on est déjà dans la 6e République à ce moment-là, parce que on change tout. Un président de la République élu au suffrage universel, dans cette époque à laquelle on parle, le seul vrai parallèle que l'on a, c'est le président des États-Unis. Ouais. Donc on se dit, est-ce qu'on est dans un régime qui est devenu présidentiel ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire de notre Parlement qui communique avec un Premier ministre ? Quelle sera cette architecture des pouvoirs ?
Et je t'arrête. Un régime présidentiel, ça veut dire quoi ?
Un régime présidentiel, ça veut dire un régime où, normalement, les deux organes sont complètement avec des couloirs. Le Congrès discute seul des lois, le président discute seul de la question exécutive, et avec un président plutôt valorisé, puisque justement, il n'a pas de compte à rendre. Donc, c'est
et le président ne peut pas renverser le Parlement.
Voilà, personne ne peut agir l'un contre l'autre.
Et le Parlement ne peut pas renverser l'exécutif.
Voilà, incapacité de...
Sauf impeachment à l'américaine.
Exactement, mais qui est plutôt pénal et pas politique.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que, normalement, il y a vraiment couloir et impossibilité de renversement.
Mais ça, on n'a pas ça en France.
On n'a pas
parce
ça en France.
Parce qu'entre les deux, il y a un gouvernement.
Et c'est ce que nous dit le général de Gaulle. Au fond, pour lui, cette réforme, elle est complètement indolore. Elle ne change rien au régime. C'est juste un mode d'élection qui change. Sauf que je pense que pour l'année 62, il faut vraiment la comprendre dans ces deux semestres. Là, on parle du semestre de l'élection du président de la République. Mais le général de Gaulle sort d'un semestre difficile, janvier-juin, où précisément c'est la question algérienne qui s'est jouée. Et on le sait, justement, on a appelé de Gaulle en 58 pour l'Algérie française, en quelque sorte, et beaucoup de ses fidèles vont vivre comme une trahison l'idée qu'on en arrive à une Algérie indépendante. Et donc, il y a des tensions qui commencent à travailler au sein de la majorité. Michel Debré lui-même, en réalité, a du mal à le défendre, si bien qu'on en change. Debré devient Pompidou, c'est une espèce de démission-divorce. Hein.
Georges Pompidou devient Premier ministre.
Ouais, c'est
Debré
ça.
Ne devient pas Pompidou.
Debré ne devient pas Pompidou, mais je paraphrase ici un article de Maurice Duverger qui disait « Michel Debré existe-t-il dans les débuts de la 5e ?» Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est la fonction du général de Gaulle qui avale un peu celle de Premier ministre. Et c'est ça
on
que,
connaîtra
que
ça ensuite
dire.
Dans l'histoire.
Oh oui. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a déjà eu en 61 le putsch des généraux d'Alger et donc le général de Gaulle qui prend les pleins pouvoirs. Article 16 de la Constitution, il a le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Il l'utilise pendant presque un an. Donc on est vraiment dans un climax d'une période de tension en 62.
L'article 16, c'est l'article que peut utiliser le président de la République lorsque l'ordre public n'est plus garanti, que la sécurité nationale est en danger.
Alors vraiment, l'article 16, c'est le général de Gaulle qui y tient d'ailleurs, hein, au moment de la rédaction, parce qu'il dit, au vu de notre histoire, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de période de catastrophe. Mais vraiment, pour lui, c'est la catastrophe guerrière. C'est-à-dire vraiment, les conditions, je les cite rapidement, c'est menace sur l'intégrité de la nation, du territoire, du respect des traités et impossibilité pour nos pouvoirs publics de fonctionner normalement. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans une catégorie très très forte.
Donc il l'utilise.
Il l'utilise, donc c'est dire...
Longtemps,
c'est dire la période de, on va dire, de tension très forte qui existe dans les pouvoirs publics. Les accords d'Évian sont signés. La communauté française a été dissoute dans la fin de l'année 60, 61. Donc, on
donc
sent que la République change.
C'est les indépendances.
C'est les indépendances. On sent que la République est en train de changer. Il y a les référendums. Déjà, on a sollicité le peuple pour lui demander son avis sur l'Algérie. On a sollicité l'Algérie pour lui demander les accords d'Évian. Donc, on est dans une période de sursollicitation du peuple pour la modification des institutions. Et là, qu'est-ce qui se passe ? L'attentat du petit Clamart.
Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombey à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux pneus. Aucun des occupants de la voiture n'a été atteint. Un motocycliste de l'escorte a reçu deux balles dans son casque mais n'a pas été blessé.
On ne peut pas comprendre cette réforme de la Constitution sans comprendre que le général de Gaulle a craint pour sa vie. Et en bon général, d'ailleurs, il en veut beaucoup à ceux qui ont fomenté l'attentat contre lui. Il en veut par rapport au fait que son épouse est en réalité dans la voiture. Et donc, il dit, un bon général ne vise que sa cible. Et elle, c'est une civile qui, en quelque sorte, aurait pu tout à fait jouer sa tête à ce moment-là. Et tu sais qu'on raconte que ce sont les poulets d'Yvonne qui nous ont sauvés, parce que c'est eux qui ont pris les balles à l'arrière, alors qu'elle les avait prévues pour le dîner. Donc, il y a toute cette théâtralisation qui est quand même une théâtralisation d'un moment physique pour le général de Gaulle. Et il raconte que c'est à ce moment-là qu'il bascule sur sa succession. Il dit « Aucun des présidents de la République qui ne me succédera n'aura ma légitimité historique. Aucun d'entre eux ne sera le général de Gaulle. » Et donc, comment est-ce qu'on va pouvoir arbitrer ? Comment on va être cette figure ? Et j'invite tous nos auditeurs à lire l'article 5. C'est surtout cette idée de se dire que l'article 5, il est fou, en fait. C'est un article vraiment hybride. Il dit « Le président de la République est arbitre de la nation. Il doit décider pour l'intégrité du territoire. Il doit décider pour l'avenir de la nation, pour l'unité du peuple, pour la garantie de la Constitution. » Et le général de Gaulle se dit, comment est-ce que ce président de la République va pouvoir avoir cet apanage s'il n'a pas une légitimité de l'histoire? Donc, en quelque sorte...
Donc, lui donner une autre légitimité, le
l'autre
suffrage
légitimité,
universel.
C'est le suffrage universel. C'est exactement ce qui est contenu dans la déclaration que tu lisais. Le général de Gaulle ne comprend pas pourquoi on lui donne des oppositions à ce moment-là, parce que pour lui, c'est quelque chose de naturel. Mais les oppositions, elles sont là.
Oui, elles sont là et elles résonnent encore avec les temps présents. Quand il y a eu la censure du gouvernement Barnier, tout le monde a dit « c'est la première fois depuis 1962 ». Et 62, c'est exactement ce qu'on est en train de se raconter ensemble maintenant, parce que c'est à l'occasion du débat à l'Assemblée sur le suffrage universel direct pour élire le président qu'il y a une censure du gouvernement.
Alors en réalité, les choses vont très vite. Le général de Gaulle se décide à peu près vers le 20 août sur le fait de réviser la Constitution pour permettre l'élection au suffrage universel direct du président. Je rappelle qu'avant, il était élu par l'Assemblée nationale et le Sénat et aussi le Collège des élus locaux, de manière à lui donner une certaine assise. Mais donc c'était une élection indirecte de ce chef de l'État. Et donc on passerait au suffrage universel direct. Sauf que... il se voit très vite qu'il n'aura pas l'assentiment du Sénat. Gaston Monnerville est vent debout, il dit c'est changer l'esprit des institutions. J'ajoute que à part le président de l'Assemblée nationale, personne ne le soutient là-dedans. Ni le Conseil constitutionnel qu'il a sollicité pour avis, ni le Conseil d'État qu'il a sollicité pour avis.
Personne ne soutient De Gaulle, tu veux dire ?
Personne ne soutient De Gaulle, même pas Georges Pompidou. Tout le monde est contre cette modification de la Constitution. Il est le seul à se soutenir lui-même. Il est persuadé de la portée universel de ce qu'il va proposer. Il est persuadé de sauver la République. Il le dit, finalement, si vous ne me suivez pas lors de ce référendum, vous allez retomber dans les affres d'hier. Vous allez retomber dans tous ceux qui ont fait l'instabilité. Donc il veut de cette réforme pour le bien de la France.
Le général de Gaulle a expliqué aux Français sa proposition tendant à faire élire le président de la République au suffrage universel.
Français. Le projet que je vous soumets propose que le président de la République, votre président, soit élu dorénavant par vous-même. Rien n'est plus républicain, rien n'est plus démocratique, j'ajoute que rien n'est plus français, tant cela est clair, simple et droit.
Mais il viole la Constitution, il faut être honnête. Pourquoi ?
Parce
que comme il sait qu'il n'aura pas le soutien du Sénat, eh bien il ne va pas réviser la Constitution suivant le mode de révision de la Constitution. Ça devient quand même un peu une habitude chez lui.
Qui est sa propre Constitution,
mais si on lit l'article 89, eh bien ce qu'on voit avec l'article 89, c'est qu'il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat soient d'accord à la virgule près. Et comme il n'aura pas le Sénat, il sait très bien qu'il n'aura pas cette révision. Donc, il passe directement par le référendum. Et là, c'est très simple. Il lui suffit de préparer un projet et de le soumettre au peuple le jour et à l'heure où il le décide seul. C'est un pouvoir propre. Personne ne peut le contredire.
Attends, t'es en train de me dire que le président qu'on a élu, qu'on va élire, c'est anticonstitutionnel ?
Complètement. Il faut être honnête. La lecture qui est faite par les gaullistes à cette époque, c'est de se dire... utiliser le référendum, c'est une bonne chose, il faut donner appel au peuple. Et je dis d'ailleurs ici un élément qui pourrait tout à fait avoir un écho dans l'actualité. On entend dans beaucoup de programmes de partis politiques l'idée de recourir à l'article 11, c'est-à-dire au référendum, pour modifier la Constitution. Or, c'est inconstitutionnel, parce que le référendum n'est pas censé réviser la Constitution. Pourquoi ? D'abord parce que dans le titre sur la révision de la Constitution, titre spécial de la Constitution, il n'y a qu'un seul article. L'article 89. Et parce que le référendum, il est déjà dans l'article 89.
Donc 89, c'est les deux chambres.
C'est les deux chambres. Une fois qu'on a eu l'accord des deux chambres, il faut soumettre le projet au référendum. Mais on ne peut pas passer par le court-circuit de notre Parlement.
J'ai dit un peu trop vite qu'il y avait déjà eu une censure. En 62, qu'est-ce qui se passe alors ?
Alors, ce qui se passe, c'est que justement, Monnerville est complètement, le président du Sénat parle de forfaiture sur l'utilisation du référendum. Et l'Assemblée nationale, même si le président de l'Assemblée soutient plus ou moins le général de Gaulle, l'Assemblée nationale est en ordre dispersé là-dessus. Elle estime que recourir au référendum en violation de la procédure de la Constitution, c'est une forme de coup d'État, en fait, du général de Gaulle. Et donc, l'Assemblée nationale, qui ne peut pas s'en prendre au général de Gaulle, puisqu'on l'a dit, on est dans un régime parlementaire. Donc le président n'est pas responsable devant l'Assemblée. Et ça, c'est pareil en Italie, en Espagne ou en Allemagne.
Oui.
Et de ce fait-là, eh bien, comme l'Assemblée ne peut pas s'en prendre au général de Gaulle, qui c'est qui va payer ? Le fusible des régimes parlementaires, c'est le Premier ministre. Et c'est donc Georges Pompidou qui, ce jour-là, est renversé sans vraiment avoir présagé cette motion de censure. Elle arrive dans un temps record, même certains membres de la majorité la votent. Donc c'est dire à quel point, à ce moment-là, le désordre est à nouveau à la clé. Conférence de presse de Georges Pompidou le soir qui dit justement « J'ai vu les partis d'hier se réunir à nouveau pour le chaos ». Donc vous voyez à quel point on théâtralise l'idée qu'on est dans une période d'instabilité. Mais le général de Gaulle n'est absolument pas perturbé. Il dit « Si l'Assemblée nationale veut renverser mon gouvernement, ça veut dire qu'on est dans une crise institutionnelle. On va redonner la parole aux Français. Je dissous dans l'instant l'Assemblée nationale ». Donc pour lui, c'est un moment clé de la survie de la Ve République. Et donc, c'est important que le peuple se prononce. Et là, on a franchement un gros automne pour le peuple, puisqu'il doit se prononcer sur le référendum. Est-ce que vous voulez que le président de la République soit élu au suffrage universel direct ? C'est un raz-de-marée pour De Gaulle, 62% des suffrages. Et est-ce que vous voulez, finalement, que cette nouvelle Assemblée nationale donne à nouveau confiance à un gouvernement gaulliste et soutienne ce nouveau président ? Et là encore, c'est un raz-de-marée gaulliste. Donc, au fond, cet appel à la cristallisation d'un moment clé, il y a quand même 3 allocutions pendant cette période de 2 campagnes. Hein. Donc le général de Gaulle veut vraiment que ce moment soit un moment de bascule. Et il le dit d'ailleurs, hein. Nos institutions doivent fonctionner, l'économie est repartie, le travail est reparti, les institutions sont stables. En gros, faites pas n'importe quoi, ouais. Là il faut que ça survive et précisément le peuple est au rendez-vous.
Il le sera moins. 3 ans plus tard, lors de la première élection au suffrage universel direct du président de la République, on est en 1965, le général de Gaulle ne fait quasiment pas campagne et mal lui en a pris.
Mal lui en a pris parce que c'est une vraie blessure pour le général de Gaulle. Il est en ballotage. Il a à vivre un deuxième tour.
Alors qu'il pense être vainqueur du premier tour.
Il est à peu près certain d'être élu directement. Il a l'habitude des victoires particulièrement imposantes. C'est lui d'ailleurs qui a créé le concept de majorité suffisante. C'est-à-dire que, en gros, si...
On l'utilise pas beaucoup aujourd'hui.
On l'utilise de moins en moins, c'est vrai. Mais si ce score ne lui plaît pas, il met sa tête dans la balance. Hein. C'est vraiment un général. Donc, il a besoin de sentir la connexion.
Il le dit déjà pour la présidentielle, ça ?
Il le dit pour la présidentielle. Et il est justement choqué d'avoir à vivre ce deuxième tour. Mais il peut se trouver des responsabilités. En tout cas, dans son coin, on lui dit « C'est vous qui n'avez pas vraiment joué le jeu. » Notamment parce qu'il faut le dire, on ne le sait pas assez. Le général de Gaulle, en réalité, détestait les caméras. On raconte même qu'au moment du maquillage, c'était une vraie foire d'empoigne. Il fallait un peu le forcer à rester sur son siège. Tellement, en fait, c'est un moment qu'il avait du mal à vivre. Donc cette campagne, il ne l'a sans pas, en quelque sorte, et le deuxième tour va lui permettre de retrouver un peu sa posture d'attaque. En gros, il va jouer la posture du parti de l'ordre face au désordre de ce que propose la gauche. Ça fonctionne. En 65, il est réélu, mais en réalité, 65-69, c'est quand même une forme de perte de vitesse du gaullisme, parce qu'on a plein d'événements qui vont commencer à l'affaiblir.
Et j'aimerais qu'on termine tout de même cet épisode sur une grave crise, celle de mai 68. Est-ce que c'est, selon toi, une crise des institutions aussi ?
C'est une crise très profonde. C'est une crise sociale, c'est une crise de la jeunesse, c'est une crise de l'autorité.
Mais est-ce que cette autorité, elle va toucher aussi la fonction présidentielle et donc le mécano institutionnel qui a été pensé par le général de Gaulle ?
Je crois qu'elle touche plus la personne du général de Gaulle. C'est-à-dire que sur les pancartes, on en a marre du général, il est temps qu'il laisse la place parce que il y a cette idée que c'est un petit peu trop long. En quelque sorte, le renouvellement des têtes va vraiment être demandé. Alors, le général de Gaulle réussit quand même encore une fois à sauver sa place sur quelque chose d'absolument historique, il faut le dire. Il disparaît de la circulation. Ni son cabinet, ni personne ne sait où il est. Il est à Baden-Baden pour se rassurer auprès de ses soutiens.
Et du général Massu ?
Le général Massu. Il revient plus sûr de lui encore avec une allocution qui est historique où il dit « Je ne démissionnerai pas, je ne vais pas non plus me démettre de mon Premier ministre ». Il fait un espèce de mémento de toutes les solutions constitutionnelles qui s'offrent à lui pour les faire tomber en quiesse, une par une. Il en garde une seule. La dissolution. Il dit, si le peuple a vraiment besoin de revenir aux urnes, on va le faire maintenant. Et là encore,
Paris
il
gagnant.
Double la mise. Finalement, en se jouant partie de l'ordre, en disparaissant au bon moment, le lendemain, il y a des manifestations au même endroit où il y avait sa tête qui était réclamée en son soutien.
On voit les cortèges sur les Champs-Élysées.
On voit les cortèges.
En effet, cette république indissociable du général de Gaulle pourra-t-elle lui survivre et survivre à l'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, ça sera l'objet du prochain épisode.
Kidding, but really I'm stressed, so this car get the whip and I'm whipping, I'm whipping, I'm revving my engine, they sending me texts. If I don't reply, then they get the trip and I'm copping a ticket, I'm getting some distance, blow me some kisses.
Sometimes I feel
at my teeth, I can't go to the dentist. I'm making decisions with no consequences. Please don't call me shallow, I'm sensitive. Running away with these Benjamins, TSA like,
oh, it's him again. Sometimes I feel
uncomfortable. Cinquième République, anatomie d'un régime en crise.
Absence de majorité, compromis difficile, coalition fragile, censure. Longtemps gage de stabilité, la Ve République est aujourd'hui fragilisée comme jamais depuis son origine en 1958. Saura-t-elle, comme par le passé, surmonter ses difficultés?
Thomas Negaroff.
Six grandes dates, six épisodes, une conversation pour apprendre et comprendre avec la spécialiste de la Ve République, la juriste Anne-Charlène Bézina.
Épisode 3. 1981. La République au défi de la gauche au pouvoir.
Pour rendre son rôle au Parlement, pour rééquilibrer le pouvoir législatif par rapport à l'exécutif, pour respecter l'opposition, il suffit de laisser jouer pleinement les règles démocratiques. Je confirme que nous y sommes décidés. Pierre Mauroy, discours de politique générale, le 8 juillet 1981. Toujours avec moi pour discuter de cette constitution de la cinquième largement en crise. Aujourd'hui, Anne-Charlène Bézina, autrice de cette constitution qui nous protège, c'est chez IXO, constitution que tu as commentée dans ce livre. Ce que je viens de lire là, c'est un moment important. C'est la première alternance gauche-droite de la Ve République. On va revenir aux années qui ont suivi le général de Gaulle, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il y a un enjeu lorsque la gauche arrive au pouvoir sur les institutions et sur la Constitution? Ça tient à la personnalité du nouveau président de la République, François Mitterrand.
Et puis, c'est aussi la blague, un petit peu, au moment où on écrit cette Constitution en 58, la presse dit « retirer la Constitution, qu'est-ce qu'on trouve ? Le général de Gaulle ». En fait, on a le sentiment, certains parlent des habits neufs de l'empereur, on se dit que la Constitution ne survivra forcément pas à son rédacteur, et en réalité on vit une forme de fuite en avant. C'est-à-dire que on se pose d'abord la question avec Georges Pompidou, on se pose un peu moins la question, mais c'est différent avec Valéry Giscard d'Estaing. Et là, quand on a une alternance aussi violente de la droite vers la gauche, on se dit forcément ça ne tiendra pas. Et puis il y a autre chose. Il y a l'attaque en règle que François Mitterrand, alors dans les rangs de l'opposition, fait contre la Ve République. Ça s'appelle le coup d'État permanent.
J'allais venir, parce que dans l'épisode précédent, on était sur l'élection du président au suffrage universel. Tu nous avais expliqué à quel point les oppositions et l'ensemble de la classe politique y étaient opposées. François Mitterrand, avec ce livre de 1964, Le coup d'État permanent, est à la pointe de l'opposition. C'est quoi l'esprit de sa critique de la Constitution?
Alors justement, ce coup d'État permanent, en fait, c'est même pas un manifeste d'opposition, c'est un manifeste d'opposition institutionnelle. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il va considérer que cette Constitution, elle est violente en quelque sorte. Elle contient vraiment tout le gaullisme. Une forme de bâton contre l'Assemblée nationale, une forme de discipline des oppositions. Et il promet en quelque sorte que la gauche aura une autre culture de gouvernement et surtout qu'il changera les institutions à la lettre. C'est-à-dire même une table rase en réalité quand il arrivera au pouvoir. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité en 69, on voit bien que le gaullisme perdure après De Gaulle. C'est-à-dire que Georges Pompidou garde les mêmes habitudes que le général, il
donc,
fait...
Donc 69, c'est la démission du général
69,
De Gaulle.
Alors ça, c'est vrai qu'il faut le dire, 27 avril 69, un référendum, à nouveau. Hein, le général De Gaulle associe toujours sa présidence avec le référendum. Référendum où il veut modifier le Sénat et la participation des salariés à leur entreprise. Le peuple dit non. Et le soir même, à minuit une dépêche AFP prévient du fait, elle est libellée en des termes assez simples, je quitte la présidence de la République, cette décision prendra effet demain à midi.
Donc, il faut dire qu'il avait prévenu avant.
Il avait prévenu avant, mais personne ne s'y attendait en réalité. Mmh. Les institutions sont complètement bouleversées à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait ? La présidence est vacante, il y a un vide de notre constitution. Le lendemain, c'est le Conseil constitutionnel qui déclare la vacance de cette présidence de la République et on lance des élections présidentielles anticipées, qui sont celles de 69 et qui vont assez sûrement de toute façon laisser la place à Georges Pompidou. Il n'y a pas eu le temps d'une vraie campagne, on sait que c'est lui qui est le successeur désigné. Ça a beaucoup blessé le général d'ailleurs, parce qu'il s'est déclaré assez tôt. En réalité, il a un peu tué le père assez vite. Mais Georges Pompidou, il a une pratique gaulliste. En fait, il fait pré-signer à ses premiers ministres des lettres de démission pour qu'il soit sûr que le moment venu, il puisse s'en défaire. Et c'est la guerre larvée avec Jacques Chaban-Delmas, qui est son premier ministre, et qui, devant l'Assemblée nationale, a un discours de nouvelle société. Alors qui est vraiment un discours programmatique avec du contenu. Sauf que Georges Pompidou n'a pas été consulté avant. Et prévenir son président, c'était quand même plus ou moins une formalité attendue. Et là, Georges Pompidou, qui apprend ça comme un vulgaire spectateur, franchement, ça passe très mal.
La première rupture avant Mitterrand, et on va y revenir en 1981, c'est 1974. Giscard n'est pas un président gaulliste, il est libéral de droite. Est-ce que ça change dans la pratique aussi du pouvoir ? Est-ce qu'on sent, comme tu l'avais dit, que cette constitution, c'est aussi les hommes qui la font ? Est-ce que cette constitution, elle va changer par les hommes qui incarnent la fonction présidentielle ?
Oui, clairement. On disait, les observateurs, notamment Jacques Chapsal, dit quand Valéry Giscard d'Estaing arrive à la présidence, tout le style est changé. C'est sa volonté, c'est-à-dire on rajeunit, on propose un président citoyen, c'est son terme à lui. On veut essayer d'incarner une proximité. Il y a cette grande parabole du président qui vient dîner chez les Français. Il se fait filmer en jouant de l'accordéon. Il donne des leçons d'économie au football. Il a un peu ce parallèle de Kennedy. Il faut être honnête, c'est les années où c'est important de montrer son image avec des dents blanches, etc.
D'ailleurs, le film de la campagne filmé par Depardon, c'est parce qu'ils avaient adoré Crisis, le film sur la campagne de Kennedy. En effet,
on est tout à fait d'accord. On est dans une américanisation. Beaucoup d'ailleurs des membres de l'opposition le critiquent. Et il n'a pas été un fervent soutien du général de Gaulle d'ailleurs. En 67, il avait dit « je soutiens, mais » et le général lui dit « on ne gouverne pas avec des mais ». Donc, il y avait vraiment dans son idée de rupture quelque chose de réel. Il y a quand même une guerre avec Jacques Chirac qui commence très tôt dans sa présidence en 76.
Chirac qui est Premier ministre.
Et qui est le seul Premier ministre de la 5e, alors il y a eu Manuel Valls mais pour d'autres raisons, qui démissionne de son propre fait parce qu'il ne peut plus s'entendre avec son président, ça devient trop difficile. Il veut reprendre la main sur la droite et Valéry Giscard d'Estaing a en réalité une présidence assez crépusculaire, très tôt, et c'est le premier à penser à la cohabitation. En réalité, déjà dans une conférence de presse de Verdun sur le Doubs, avec un discours très elliptique, il dit « Ne croyez pas que si vous faites gagner la gauche, j'ai les moyens de contrer l'application du programme commun. »
Est-ce qu'il y a une petite musique de crise des institutions dans les années 70, par exemple, avant l'arrivée même de François Mitterrand en 1981 ?
Il y a un besoin de renouveau qui se fait sentir. Et figure-toi qu'avant de mourir, Georges Pompidou lance l'idée du quinquennat, par exemple. Donc, le renouvellement institutionnel,
c'est quoi,
on y pense.
De plus de respiration, on est après 68 ?
Exactement, on est après 68. Et Georges Pompidou, d'ailleurs, est beaucoup mieux accepté en 68 que le général. Lui, il arrive à, il a une personnalité ronde, il arrive à être entendu, les partenaires sociaux ont confiance en lui. Et donc, ce moment, pour lui, c'est l'idée de rompre un peu avec le septennat présidentiel, en fait, qu'on a depuis la Troisième République pour des règles ubuesques. C'était une manière d'éloigner le président de l'Assemblée nationale. Ces 7 ans, ils ont vécu. Pour Georges Pompidou, il dit en quelque quelque sorte, il faut plus d'aération, il faut essayer de revenir plus régulièrement aux urnes, il faut raviver un peu le contrat démocratique. Valéry Giscard d'Estaing le fait avec ce qu'il appelle des réformes sociétales et sociales. L'abaissement de la majorité,
bien
qui
n'est
pas constitutionnel, mais qui compte quand même. La loi sur l'IVG, qui lui vaut aussi cette idée d'être le président social. Et une réformette, au départ, c'est-à-dire on n'y croyait pas trop, on se dit, bon, c'est une réforme un peu gadget. La réforme de la saisine du Conseil constitutionnel. Alors ça paraît technique.
Ça l'est.
Ça paraît technique, mais le Conseil constitutionnel, quand on le crée en 58, c'est déjà une révolution. Parce qu'on n'avait jamais eu de juge de la Constitution. Et ça veut dire qu'on met notre Constitution au-dessus de tout. Et ça, c'est vraiment un dogme qui change beaucoup. Mais le général de Gaulle n'y croit pas. Il crée le Conseil constitutionnel plus pour arbitrer. Mais il dit, la seule Cour constitutionnelle, ne vous inquiétez pas, c'est le peuple. Sauf que le Conseil constitutionnel voit très vite qu'il est entravé dans son action, et en 71, il prend une décision. Alors, on raconte d'ailleurs que c'est plutôt parce que le président du Conseil constitutionnel a été oublié dans les rangs de l'ordre de la Légion d'honneur qu'il est un petit peu énervé, mais cette décision est rendue avec l'idée que le Conseil constitutionnel devient le gardien de toutes nos libertés. Déclaration des droits de l'homme, préambule avec tous nos droits sociaux, le Conseil enrichit la Constitution avec tous nos textes historiques, et donc il peut protéger les libertés.
C'est le garant de l'État de droit.
C'est le garant de l'État de droit, exactement. Il fait cette mue en 71, et en 74, Valéry Giscard d'Estaing se dit, eh bien c'est le moment de lui donner un peu plus de pouvoir, et l'opposition parlementaire, donc en fait tous ceux qui ne sont pas dans les rangs de la majorité, vont pouvoir aller critiquer les lois devant le Conseil et ils vont en faire un usage à bras raccourcis sur toute la Ve République. C'est un des premiers droits de l'opposition.
Allez, on y vient en 1981. François Mitterrand, donc l'auteur du coup d'État permanent en 1964, devient président de la République. Est-ce que ça change quelque chose dans la pratique du pouvoir ? On a entendu Pierre Mauroy qui tentait de rassurer tout le monde lors de son discours de politique générale que j'ai lu tout à l'heure, avec même l'idée de redonner du pouvoir au Parlement. Ça s'est traduit dans les faits, ça ?
Alors c'est tout à fait la volonté de départ, en tout cas, de se dire la culture de la gauche est une culture parlementaire.
Et pas présidentielle.
Et pas présidentielle. Et on se dit, la culture parlementaire, ça veut dire aussi changer les méthodes. Écouter le Parlement, lui laisser le temps de discuter. Or, ça va très vite bouger. François Mitterrand aura ce mot-là à l'intention de son gouvernement. Les 110 propositions du programme commun sont votre contrat de législature. Donc c'est très clair, ça veut dire que c'est lui qui a choisi ce qui allait se passer au sein du Parlement. Donc, en
sachant
quelques
qu'il
jours,
a une très très large majorité au Parlement.
Il a une très très large majorité en 80, parce que c'est ça qu'il faut expliquer. Non seulement François Mitterrand est élu, mais il dissout l'Assemblée nationale quelques semaines après avoir été élu. Ça veut dire qu'il provoque des élections
c'est
législatives.
Normal, non ?
Il a raison. Politiquement, il dit, vous allez signer en fait la suite. C'est-à-dire que si vous voulez me donner les moyens de ma politique, il va falloir me donner une Assemblée nationale. Mais il crée un peu ce qu'on a appelé le fait majoritaire. C'est-à-dire que de ce fait-là, on a le sentiment que l'Assemblée dépend du président. Et donc, en fait, il ne rompt pas complètement avec la pratique gaulliste. C'est-à-dire qu'il a besoin d'une assemblée à sa main. Donc, en 81, il y a ce raz-de-marée. Il y a vraiment une gauche à tous les étages. On se souvient aussi des images très marquantes de la montée jusqu'au Panthéon, tout cet ressoufflot avec tout un personnel de gauche renouvelé. Et il y a des espoirs qui sont nourris. Il y a tout un cap législatif. Les réformes de la décentralisation, les réformes de l'audiovisuel public, l'abolition de la peine de mort, qui est une conviction personnelle de François Mitterrand, qui donne cette tâche à Robert Badinter, qui en fait le combat d'une vie. Et donc, il y a vraiment des grands moments, on appelle ça le socialisme à la française, qui commence à trouver sa voie, avec quand même l'entrée des communistes au gouvernement, qui vaudra aussi des mots très durs de la part de l'opposition. Et il y a quand même les premières déconvenues, notamment avec, je pense, un moment de bascule qu'on doit mettre dans l'année 84, avec la loi Savary, la loi sur l'école. Où précisément, on se rend compte que c'est un totem pour les Français, l'école. À partir du moment où on y touche, eh bien, les gens sont dans la rue très vite. Et il a peur du peuple. Vraiment, ce côté socialiste l'amène à se dire, quand la rue démarre, je ne peux pas me permettre d'aller jusqu'au bout. Donc, il désavoue son ministre, il retire la loi. Et là, on est vraiment dans la succession des échecs. Il va y avoir des municipales qui sont quand même très difficiles pour la gauche. Et ce nouveau Premier ministre, ce nouveau jeune Premier ministre que je donne à la France, dira Mitterrand. Donc, tu vois comme le style gaulliste est conservé.
Il dit que je donne à la France.
Que je donne à la France. Et c'est évidemment, tu l'auras reconnu, Laurent Fabius, qui vient essayer de faire le lien, en fait, dans les périodes compliquées. Si bien qu'en fait, on se doute qu'en 86, les prochaines élections législatives, ça devrait être la droite qui l'emporte. On théorise un peu comment ça pourrait se passer. Et c'est pour ça qu'on bidouille un peu avec le mode de scrutin. Et là, en fait, on se dit que ça va être tellement violent d'avoir une majorité très forte pour la droite qu'on crée la représentation proportionnelle pour tous les 577 sièges d'un coup. Et c'est vrai que ça a un petit peu dissous la victoire de la droite.
On va y revenir dans le prochain épisode, mais pour terminer celui-ci tout de même, est-ce que tu dirais que François Mitterrand, malgré 64, malgré le coup d'État permanent, est, après le général de Gaulle, le président le plus gaulliste de la Ve ?
Oui. Clairement, je pense qu'il a incarné la fonction présidentielle vraiment au sens de notre article 5. C'est-à-dire qu'il donnait le cap, il s'investissait intellectuellement, aussi avec un rôle assez intéressant au niveau de l'unité de la nation. Il avait plusieurs allocutions assez rares, mais finalement assez bien pensées sur la manière de théâtraliser. Donc on retrouve en fait complètement cette idée du cycle président-peuple qu'il aura tout à fait animé, avec aussi des périodes d'improvisation constitutionnelle. Il ne faut pas oublier qu'en 88, par exemple, alors que la culture parlementaire devait être le là de cette nouvelle gauche, eh bien finalement, on utilise le 49-3 à bras raccourcis.
Ah oui, raconte-moi. On enjambe 86.
On enjambe 86.
Mais en 88, il gagne à nouveau la présidentielle, génération Mitterrand, avec son...
Tonton,
avec son Premier ministre Michel Rocard. Et là, il y a un usage massif du 49-3.
En effet, parce que déjà, bon, il utilise Michel Rocard un peu, si on reprend ses dires, il dit « je vais le casser ». C'est l'idée un peu de le casser pour les futures échéances. Il se dit « il vaut mieux pas trop qu'il y ait de candidats à gauche ». Donc Michel Rocard est cassé de l'intérieur, hein, puisque de toute façon, il signe des accords à Nouméa qui lui valent une lombalgie très, très médiatisée. mais...
Rocard, c'est la Nouvelle-Calédonie. Hein,
ouais, voilà,
dossier.
Exactement. Et Rocard a en réalité la majorité la plus relative de la Ve République à cette époque-là, même si une fois qu'on la compare à celle de 2024, on a l'impression qu'elle est godillot. Mais il faut trouver une nouvelle gouvernance. Et là, toutes les armes qu'a pensé le général de Gaulle pour ces périodes de crise, eh bien, elles vont être utilisées. Le vote bloqué, 44-3, le 49-3, alors, on est obligé de le citer, d'en parler un peu, de ce 49-3. Au départ, l'un des rédacteurs de la Constitution dit « c'est une forfaiture, c'est une ignominie pour le Parlement de voter cet article 49-3 dans la nouvelle Constitution. Pourquoi ? Parce que l'article 49, alinéa 3, il nous dit « on arrête de faire travailler le Parlement ». En réalité, l'Assemblée nationale n'amende plus. Et c'est un droit fondamental des députés. C'est comme qui dirait pour nous la liberté d'aller et venir. C'est le seul droit fondamental des députés. Donc quand on dit, avec l'article 49, alinéa 3, soit vous prenez mon texte, soit vous renversez mon gouvernement, on est dans un chantage. On est dans une alternative qui prive complètement l'Assemblée nationale du pouvoir de travailler. Et en 88, eh ben, on utilise le 49-3 à chaque échéance budgétaire, parce qu'on en a besoin.
Mais moi, j'avais lu qu'il utilise le 49-3 parce que les communistes sont importants pour avoir la majorité, mais veulent pas être pris dans les histoires politiques. Et donc, le 49-3 permet, en gros, de passer plus facilement une loi sans nuire aux communistes. Donc, c'est pas vraiment le 49-3 d'aujourd'hui, on a l'impression.
On peut utiliser l'article 49-3 de mille façons. L'article 49-3 rocardien, en réalité, c'est un article utilisé plutôt pour une discipline des majorités, comme tu le dis. Rocard et Guy Carcassonne, qui étaient son conseiller constitutionnel, avaient l'habitude de dire on va avoir soit une majorité Dolby, soit une majorité stéréo, pour essayer de savoir avec qui ils allaient travailler. Donc, un peu plus de communistes, voilà. Quand ils voulaient un texte un peu plus à gauche, un peu plus au centre. En réalité, c'est assez facile de travailler. Le groupe s'élargit assez facilement. Et donc, l'article 49, alinéa 3, il est utilisé en fin de discussion, juste pour sécuriser les votes.
Voilà.
C'est pas du tout une arme de brutalisation.
On a enjambé une période majeure de notre constitution de la Ve République. C'est l'invention de la cohabitation en 1986. Ça sera l'objet de notre prochain épisode.
On se retrouve samedi prochain pour la suite et la fin de cette série.
Juste après le journal, vous retrouverez Stéphanie Duncan avec Espion, une histoire vraie. Bonjour Stéphanie, quel est le programme aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je vais parler d'un agent du FBI, Robert Scherer, qui a joué un rôle trouble en Amérique latine dans les années 70.
Dans ma voiture, j'ai l'ABS pour un freinage optimal, le GPS pour trouver mon chemin, mais le plus important, c'est que j'ai le DAB+. La radio en DAB+. Grâce au DAB+, j'écoute la même radio sur tout mon trajet, sans jamais changer de fréquence, avec une qualité sonore exceptionnelle et davantage d'infos sur ce que j'écoute. Et puis, il y a plus de choix de radio. Bref, le DAB+, c'est trois lettres pour une révolution de la radio.
DAB+, DAB+.
Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab-plus.fr.
Si je fais un move pour toi, c'est de bon cœur, t'as pas à t'en rappeler. Une fois dans l'année, je déprime en profondeur, je reste en apnée. Je remonte à la surface, quoi qu'il se passe. J'ai mes deux bras, deux jambes, c'est pas si naze. Rien à faire de l'argent des autres, je m'émerveille devant des battements d'ailes. Y'a des espèces qui se font rares comme des crashs dans le ciel. Pensez pour moi-même comme Marc Aurèle. J'espère passer l'âge du Christ, éviter la crise de la quarantaine. Déjà petit, on m'a dit contrôle tes pulsions, ta colère. C'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre. Avec l'essentiel est invisible pour les yeux. Je pense à mes ancêtres sous une terre poussiéreuse. C'est nous les plus haineux. Pas de je t'aime sans une insulte. Comme ça on reste dans notre confort. Et au final ça nous rassure. Mais je veux plus de ça. Et quoi qu'il arrive, je me rapproche des étoiles quand je vise la lune.
J'ai roulé toute la nuit, je crois que je perds le contact, hey. Même en changeant de vie, j'ai fait le même constat, hey. On fait pas la paix.
Mes failles et je deviens menaçant. Nous on fait que d'entendre que c'était mieux avant. Il faudrait quoi qu'on s'arrête de vivre. On fait déjà comme on peut. Les meilleurs partent en premier, on fait sans eux. Parfois je critique les autres et je me sens aussi lâche. J'ai des potes nés après le premier album de Gorillaz. Ça change quoi au final, ça change rien, c'est que des chiffres. Si t'es dans un bad mood, dis-toi que c'est que des cycles. Je donne mon pardon à tous, mais y'a pas tout qui se pardonne. Bousillé par le rap, les OGM et l'uranium. Je connais peu de missions, aussi dur qu'élever un homme. Regarde comment on se comporte, on est moins droit que le métronome. Vu sur les neiges éternelles pour me rappeler qu'on l'est pas. Millionnaire seulement en France CFA et G.